Alors ce matin, on pourrait donner le titre de mon message. Voilà, pas de bonheur sans malheur. Alors je vous laisse imaginer, on va aller au cinéma ce matin. Je vous laisse imaginer que vous allez voir un film plutôt joyeux, plutôt sympa. Et vous êtes tranquillement installé dans votre fauteuil, vous êtes emballé de voir ce film qui pourrait avoir comme titre quelque chose comme ça. Et donc c'est un sujet qui vous passionne. Peut-être que vous êtes même venu avec un ou une amie, parce que c'est une bonne nouvelle que vous avez envie de partager. À l'exemple de Paul, qui en a fait autant, on peut dire ça dans Romains, les versets 1 à 7 du chapitre 1, qui disent « Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, donc vous êtes bien installé dans votre fauteuil. Le film va commencer. Et là, surprise, quelle n'est pas cette surprise de voir en première image le jardin de Gethsémané. Et pour bien planter ce décor un peu surprenant, je vous propose de lire un passage dans Marc. Peut-être que certains l'ont vu hier soir, du coup, au chapitre 14, les versets 32 à 40. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici, éveillés. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et prit à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. » Éloigne-moi cette coupe, cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Et ils ne surent que lui répondre. Et là, on découvre un Jésus qu'on ne connaissait pas comme ça. Jusque-là, on avait vu un autre Jésus en lisant les évangiles. On avait vu un Jésus qui était plein d'assurance, plein de confiance. On avait connu un Jésus qui était calme, qui était posé, sans crainte. On l'a vu guérir des malades, on l'a vu ressusciter des morts, on l'a vu chasser des démons. On l'a vu serein sur une mer déchaînée et maîtriser les flots. On l'a vu prêcher devant les foules, on l'a vu plein d'assurance. Prendre autorité et chasser les marchands du temple. On l'a vu défier les chefs religieux. On l'a vu le visage comme le soleil, les vêtements d'une blancheur éclatante, transfigurée. Et quand on voit toute cette description de Jésus qu'on peut lire au travers des évangiles, on a plutôt le profil type pour notre film d'un super-héros. Et pourtant, dans notre lecture de ce matin, on est bien loin de cette image. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Et là, les paroles de Jésus, elles sont terribles. « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Et à cet instant, comme le dit Marc, il s'écroule, il s'effondre. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre. Et on va voir dans un instant pourquoi il est tombé au sol, mais c'est un lien avec sa prière qu'on va pouvoir lire ensemble tout de suite. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne-moi de cette coupe, cependant qu'il n'arrive pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et pourtant, Jésus, il était préparé à ce moment. Il savait ce qui allait lui arriver. Il l'avait même annoncé, et on l'a lu tout à l'heure dans Romains, même les prophètes l'avaient annoncé avant lui. Et pourtant, là, on retrouve un Jésus qui, malgré tout, est angoissé. Alors pourquoi il est angoissé? Quelle est cette coupe dont Jésus parle et qui le réduit à néant? Et je propose de lire la description de cette coupe. On peut en trouver une dans Ésaïe, au chapitre 51, le verset 17. « Réveille-toi, réveille-toi, debout Jérusalem, toi qui as bu la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Oui, toi qui as vidé jusqu'à l'ultime goutte de la coupe du vertige. » Voilà pourquoi Jésus veut éloigner de lui cette coupe. Voilà pourquoi Jésus, dans une souffrance inimaginable, tombe au sol. C'est parce qu'il sait que Dieu fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Psaume 11, verset 6. Et là, on comprend mieux pourquoi Jésus est accablé, pourquoi il est à terre. On peut aussi trouver une explication de pourquoi il est à terre dans Jérémie, chapitre 25, les versets 15 et 16. « Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe du vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Elles boiront, elles tituberont et seront comme folles devant l'épée que je vais envoyer contre elles. » Et on peut comprendre que Jésus, qui est amené à boire cette coupe de la colère, titube et tombe à terre. Et à ce moment-là, Jésus, il est l'objet de la furieuse colère de Dieu. Alors vous savez, tout à l'heure, on a parlé de Jésus qui guérit, qui prend autorité, qui ressuscite, qui brille de splendeur. Et là, tout d'un coup, tout ça, ça disparaît. Et Jésus, il connaît très bien cette colère. C'est celle de son Père. C'est un peu comme quand nous, on dit à nos enfants, « Tu veux que papa se mette en colère ?» Et on sait que nos enfants ne veulent surtout pas que papa se mette en colère, parce qu'ils connaissent la colère de papa. Et là, c'est pareil. Jésus connaît très bien la colère de son Père. Et il veut tout, sauf cette colère. C'est la dernière chose que nos enfants veulent voir, la colère de leur Père. Et c'est la dernière chose que Jésus veut subir de la part de son propre Père. Surtout qu'il connaît les conséquences de la colère de son Père, de cette colère qui se déverse sur lui. Et cette conséquence, c'est une séparation d'avec Dieu. Jésus est séparé de son Père. Il était venu dans ce jardin pour passer un moment avec son Père, peut-être pour chercher un peu de réconfort, mais celui-ci ne répond pas. Il était venu passer un moment avec son Père dans ce jardin, mais tout ce qu'il voit, c'est une ouverture sur l'enfer. Jésus est dans une profonde détresse. Il vit un abandon qui est total. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est resté silencieux devant les cris d'agonie de son Fils. Et à ce moment-là, Jésus, il aurait pu tourner la tête. Il aurait pu nous dire, c'est ta coupe, Luc. C'est votre coupe. C'est vous qui en êtes responsable. Mais non. Ces seuls mots ont été, que ta volonté soit faite. Et on peut retrouver cette notion aussi dans Galates, au chapitre 1, les versets 4 et 5, qui nous disent, le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde, présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et ce jour-là, Jésus a bu la coupe qui nous était destinée. C'est pas étonnant qu'il ait sué des gouttes de sang. Il a vécu ça pour que moi, je n'ai jamais à boire cette coupe. Il est allé jusqu'au bout. Il est même resté muet et silencieux devant les juges. Même la foule l'a rejeté. Alors pourquoi j'ai mis une image récente de la foule ? C'est parce que cet homme en cravate, cette femme en tailleur, ça pourrait très bien être moi. Ça pourrait très bien être l'un d'entre nous. Et on aurait très bien pu être dans cette foule. Et finalement, c'est nous qui avons mis Jésus sur la croix. C'est notre péché qui a mis Jésus sur la croix. Et on est tous responsables de la mort de Jésus. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir conscience de la gravité de notre péché et des conséquences terribles que ça a eues. Et même sur la croix, les gens disaient à Jésus, « Sauve-toi toi-même. » Il aurait pu le faire. Il est le Fils de Dieu. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Il ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas là pour sauver sa propre peau. Il était là pour sauver la peau de ceux qui l'insultaient. Il était là pour nous sauver, frères et sœurs. Et là, sur la croix, la colère de Dieu, elle va s'exprimer de façon encore plus forte et encore plus visible. Il était environ midi, quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Je ne sais pas si vous imaginez, perdu au milieu d'une cité coupe-gorge, comme on peut en connaître, c'est sûrement pas très rassurant, mais maintenant, imaginez-vous au milieu de cette cité, la nuit, dans le noir complet, et imaginez la sensation que ça puisse vous procurer. Et maintenant, je vous invite à imaginer la sensation de Jésus, tout seul, abandonné, dans le noir. Et au bout de 3 heures, il a craqué. Et il a dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'essaye de m'imaginer à la place de Jésus à ce moment-là. Et pour moi, je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, jamais il n'y a eu quelqu'un de plus seul que Jésus. Il était seul face à la colère de Dieu. Il était seul, séparé de Dieu. Il était seul, rejeté des hommes, même de ses disciples qui se sont endormis, qui l'ont renié. Il a subi ce que tous méritent, alors qu'il était le seul à ne pas le mériter. Et en plus, il était dans le noir. Pourtant, Jésus, il avait déjà été assailli auparavant. On avait même tenté de le lapider. Mais il avait toujours été secouru par Dieu, à chaque fois. Mais ce jour-là, Dieu ne répond pas. Il n'intervient pas. Dieu ne peut pas regarder son Fils qui porte le poids de nos péchés. Il fallait que le péché absolu soit séparé de la sainteté absolue. Et voilà comment commence mon film, Le salut par grâce. Alors qu'est-ce qui fait que la suite de ce film est si belle? C'est que ce que Jésus a vécu, c'est ce que nous, nous aurions dû vivre à sa place. Et il a été seul pour que nous, on ne soit jamais seul. Il s'est écrié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour que nous, nous puissions nous écrier. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est ressuscité des morts. Et c'est ce qu'on fête aujourd'hui en célébrant Pâques. Et il est mort pour qu'on puisse être pardonné et sauvé. Et qui peut nous condamner? On vient de le lire, personne. Jésus a été condamné à notre place. Et quand on peut mesurer toute la souffrance de Christ qu'il a pu vivre ce jour-là, dans le jardin, à la croix, alors on peut mesurer tout l'amour et toute la grâce de Christ pour nous. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et je ne suis pas sauvé par mérite. Ce que moi je mérite, c'est Jésus qui l'a subi pour moi, qui l'a subi à ma place. Il a subi les coups de fouet, il a subi les épines, il a subi les clous, les insultes, le vinaigre, l'abandon total de Dieu, des hommes, les ténèbres et la mort. Bon, c'est pas grave. Mais Dieu m'a tant aimé qu'il a laissé son Fils unique à l'agonie. Il l'a abandonné, il l'a traité comme un pécheur pour qu'il puisse nous traiter, vous, moi, nous qui étions pécheurs, comme des justes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors ce matin, mon message, il est court, mais finalement, est-ce qu'il y a besoin de broder autour du message de la croix? Jésus a dit lui-même, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors pour finir ce message, je voulais lire un passage de la Bible avec vous ce matin, dans les psaumes, le psaume 103. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous voulez suivre. Et on va pouvoir lire ensemble. Et ce psaume, il résume bien ce qu'on a vu ce matin. Il aurait presque pu être dans le Nouveau Testament. On y parle d'amour, on y parle de pardon, on y parle de punition qu'on mérite mais qu'on ne reçoit pas. On y parle de fidélité. Et bien entendu, le passage nous invite à la louange, à louer Dieu pour lui exprimer toute notre reconnaissance pour son amour et sa grâce. Donc le psaume 103 de David. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice. Il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas pour toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelles pattes nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe. Lui, il fleurit comme une fleur des champs. Qu'un vent souffle sur elle, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte de ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompt à lui obéir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Bénissez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que mon être bénisse l'Éternel. Et pour finir ce temps ensemble ce matin, je vous propose juste un temps de silence pour qu'on puisse se rappeler de ce que Christ a vécu. Voilà. Ce que Christ a subi, et qu'on puisse se rappeler que si nous, on ne sera jamais seul, si on ne sera jamais abandonné, si on ne sera jamais condamné, c'est parce que Jésus l'a fait à notre place. Il a été condamné pour nos fautes, certes, mais surtout par amour pour nous. Et on peut aussi se rappeler qu'il a été victorieux sur le péché, sur la mort, par sa résurrection qu'on célèbre aujourd'hui, et que grâce à cette victoire, on peut pleinement vivre ce salut qui nous est offert par pure grâce. Je vous invite à un moment de silence.